Le 23 septembre 2022, Citoyens et Territoires Grand Est organisait avec la ville de Langres, dans le cadre de leur programme Petite Ville de Demain, une journée d'études intitulée « La ville du quart d'heure, un concept moteur pour les petites villes ». Ce concept de ville du quart d'heure, nous en avons beaucoup entendu parler au moment de la crise sanitaire. C'est un concept élaboré par Carlos Moreno, urbaniste et chercheur à Paris-Sorbonne. Cette conception de la ville entend offrir un rythme de vie apaisé, solidaire et bas carbone, en rendant accessible à pied ou à vélo, en 15 minutes, les 6 fonctions sociales, urbaines et territoriales essentielles d'une cité. Se loger, produire dignement, accéder aux soins, s'approvisionner, apprendre et s'épanouir. Cette rencontre à Langres visait à voir comment le concept de ville du quart d'heure, pensé à l'origine pour les métropoles, peut interroger l'aménagement et le développement d'une petite ville, comme Langres, dans les domaines de la mobilité, de l'urbanisme, de l'accessibilité des services ou encore de la cohésion sociale. Quel intérêt les petites villes auraient-elles à s'inspirer de ce concept? Est-il facteur d'attractivité, levier de résilience ou simple outil de marketing territorial? Pour y répondre, nous vous proposons dans ce premier podcast de réécouter l'intervention de Jean Viard, sociologue, spécialiste de la question des temps sociaux. Mais pour l'heure, place au discours d'introduction de la maire de Langres, Anne Cardinal.
Vous êtes dans une ville ancienne, fortifiée, et qui plus est, située sur un éperon rocheux à près de 500 mètres d'altitude. Les assaillants de tout poil ne s'y sont d'ailleurs pas trompés et ont rebroussé chemin plus souvent qu'à leur tour. Alors, à la lecture du paysage et mesurant l'épaisseur des remparts qui vous entourent, sans doute pourriez-vous imaginer que les Langrois vivent là, en quasi-autarcie depuis des siècles, à l'abri des soubresauts du monde. Pourtant, la seule lecture du paysage est insuffisante pour comprendre les liens tissés depuis toujours avec le territoire alentour. Car Langres ne se vit pas comme une forteresse, mais plutôt comme un phare. Notre ville vit en effet et interagit avec chaque habitant des villages environnants qui vient s'y soigner, y faire ses courses ou s'y divertir. Les liens qui nous unissent à nos voisins ont fait fi de la topographie et nous avons compris très tôt que dans un département rural tel que la Haute-Marne, l'isolement pourrait signifier l'effacement. Car voyez-vous, la naissance de Denis Diderot dans notre cité nous oblige à double titre. D'abord, à creuser encore et encore le sillon de cette matière chère à Diderot, la philosophie. Et chaque année, nous accueillons ici des professeurs de philosophie venus de la France entière qui, durant 10 jours, éclairent un sujet de leur lumière. Elle nous oblige ensuite, parce que Diderot était un curieux insatiable, un libre voyageur, un homme instruit, certes, mais qui n'imaginait pas détenir à lui seul le savoir. Ainsi, l'encyclopédie est une œuvre collective et ce sont plus de 140 personnes qui ont collaboré à sa rédaction. Cet héritage qui s'est construit hors les murs, sur la base de liens intellectuels et amicaux, nous démontre combien aller frotter sa cervelle avec celle d'autrui, comme aurait dit Montaigne, nourrit notre propre réflexion, éclaire des pans restés jusque-là dans l'ombre et, chemin faisant, nous fait grandir. C'est à cet exercice que nous vous invitons aujourd'hui, et nul doute que la table ronde de ce matin et les ateliers de cet après-midi seront riches d'enseignements qui permettront à chacun d'entre nous de poursuivre la réflexion bien au-delà de cette journée. Je souhaite adresser mes chaleureux remerciements à nos 4 intervenants. Monsieur Jean Viard, sociologue, qui nous fait le plaisir de participer depuis le sud-est où il vit à notre table ronde. C'est une grande joie de vous accueillir ici, monsieur, et j'espère que vous pourrez venir prochainement découvrir notre belle ville de Langres. Vos récents travaux qui analysent les conséquences de l'épidémie de Covid sur les aspirations des Français nous intéressent, vous l'imaginez tout particulièrement. Madame Sylvie Ladrieve, codirectrice du forum Vie Mobile. Vos recherches, madame, sur les questions de mobilité en général et sur la place des déplacements dans nos modes de vie en particulier, sont au cœur de nos réflexions. Madame Elsa Martin, sociologue et maîtresse de conférences à l'Université de Lorraine. Vos recherches, madame, sur les trajectoires résidentielles des personnes âgées et sur l'attractivité économique des petites communes s'inscrivent naturellement dans les réflexions que nous menons à Langres au quotidien. Monsieur Marc Verdier, architecte et professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy. Je crois savoir, monsieur, et vous me l'avez confirmé tout à l'heure, que vous êtes déjà venu travailler à Langres il y a quelques années. Cela vous donne un avantage certain, puisque vous pouvez à la fois mesurer les atouts de notre jolie ville, mais tout autant les difficultés. J'espère que vous aurez eu plaisir à réemprunter les chemins du temps. J'adresse également mes vifs remerciements à Claire Ponsignon, directrice de l'association Citoyens et Territoires Grand Est, ainsi qu'à Chloé Benacchio, chargée de mission, avec lesquelles Carole Bégel, notre chargée de mission Petite Ville de Demain, a co-construit cette journée d'études. Merci à vous, mesdames. Enfin, je souhaite remercier chacun d'entre vous qui êtes venus parfois de loin, Paris, Alsace ou Lorraine, ou de plus près, Chaumont, Langres ou les villages alentours. Je vous souhaite des travaux fructueux et une excellente journée parmi nous. J'espère que ce court passage dans notre ville vous donnera envie d'y revenir encore de nombreuses fois. Sachez que nous vous accueillerons toujours avec grand plaisir. Alors, on va parler de choses un petit peu plus pratico-pratiques maintenant. Donc, pour votre mémoire, à la suite de la table ronde, on se retrouvera à salle Jean Favre pour le déjeuner qui sera confectionné par les élèves du lycée professionnel des franchises. Et ensuite, l'après-midi, ce sera scindé en deux temps. Vous irez déjà dans un premier temps visiter la ville de Langres en adossant les habits de 5 personnages différents afin de mesurer l'accessibilité de notre ville. Vous serez guidé par les élus et les techniciens de la ville. Et ensuite, dans un second temps, nous reviendrons à la salle Jean Favre pour mettre en commun nos impressions. Nous demanderons enfin à deux de nos intervenants qui nous font le plaisir de passer toute la journée avec nous de participer à la synthèse de nos travaux et de nous livrer leurs propres ressentis. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée à tous.
Écoutons maintenant l'intervention de Jean Viard, sociologue, spécialiste de la question des temps sociaux.
Merci beaucoup, bonjour. Excusez-moi d'être loin, mais je suis totalement surbooké. Mais j'aime bien ce que vous faites à Langres, en plus évidemment la ville de Diderot, mais en plus je trouve que vous êtes combatif et pour une petite ville c'est génial. Alors, si vous voulez, on est dans une société qui change à une vitesse extraordinaire. On va prendre quelques exemples, par exemple 1 million de couples ont explosé en 2 ans, 2 ou 3 millions de Français ont déménagé, 2 ou 3 millions ont changé de boulot, pour prendre des chiffres. Alors, ils ne sont pas définitifs, les études, on verra après, mais ça donne des ordres de grandeur. Hein. C'est-à-dire que la pandémie bouleverse les modes de vie. On peut dire un autre chiffre, 43% des 18-25 ans n'ont pas fait l'amour depuis 2 ans. C'est un autre chiffre qui signifie une société, bon voilà. 30% des jeunes filles, par exemple, déclarent qu'elles ne voudront pas avoir d'enfants parce qu'elles trouvent que le monde devient trop dangereux. Donc vous voyez, on est sur des tas d'éléments qui vont changer, c'est vivant tout ça. Mais si vous voulez, on est dans une crise absolument gigantesque du changement social, avec un marché du travail qui est bousculé par différentes choses. D'une part, parce qu'il y a des métiers qui disparaissent à toute vitesse, mettons les fonderies, puisqu'effectivement, les voitures ne seront plus, seront électriques. Donc, très bien, les crises dans la fonderie, mais il va y avoir d'autres crises, parce que les avions vont passer le kérosène va assez vite disparaître, etc. Donc, on a partout du changement social, de l'innovation. Et puis, on a, si vous voulez, des populations dans le monde entier qui sont traumatisées par la crise. Mon impression partout où je vais, c'est qu'au fond, c'est comme si les gens avaient eu un cancer et à un moment, on leur dit « t'es guéri ». Il dit « mais c'est pas croyable, je savais pas que c'était… » Et on lui dit « t'es guéri ». Et il se dit « mais qu'est-ce que je vais faire de la vie qui me reste ? Qu'est-ce que je vais faire sous ma couette ? Dans ma maison, est-ce que je déménage ? Est-ce que je change de métier ? Est-ce que je change de parti ?» Et donc, tout ça flotte. Et du coup, on est… Et ce qui ne m'intéresse pas, je me retire. Ça peut valoir pour l'érotisme un peu, des fois, facile de la jeunesse. Ça peut valoir pour l'engagement politique. Donc, si vous voulez, au fond, on se replie. Donc, on se replie sur le local, on se replie effectivement sur le proche. Alors, ça renvoie évidemment au sujet où on est. Ça se replie aussi sur le nationalisme. La question que je me pose beaucoup, c'est est-ce qu'il y aurait eu la guerre en Ukraine s'il n'y avait pas eu la pandémie ? Je ne sais pas, évidemment. Mais je pense qu'on s'est refermé. Il n'y a plus eu de conférences internationales. On n'a pas développé de relations. On a mis en arrêt toutes les négociations, etc. Est-ce qu'il y aurait eu ? Peut-être oui, peut-être non. Donc, si vous voulez, on est là dans une rupture de civilisation, de culture. Et pour le dire simplement, pour moi, la grande pandémie, c'est le lanceur d'alerte de la guerre contre le climat, si on peut dire des choses comme ça. C'est-à-dire que la société bas carbone de 2050, elle devient possible grâce à la pandémie. Parce que la pandémie nous a amenés à combattre ensemble. On a été 5 milliards, à avoir les mêmes comportements. On a enlevé 1,5 milliard d'enfants des écoles. On a vacciné effectivement 12 milliards d'épaules. On a 4,9 milliards d'Européens, de terriens qui ont été vaccinés en entier. Alors, avec 21% en Afrique, plus dans d'autres continents, il y a des inégalités évidentes. Mais quand même, rendez-vous compte qu'il y a 12 milliards d'épaules qui ont été vaccinés, avec tous les gens qu'il y a derrière, les systèmes économiques, la recherche scientifique, les médecins, etc. Dans l'histoire de l'humanité, c'est tellement énorme qu'on va mettre du temps à le penser. Donc ça, si vous voulez, c'est ma toile de fond. Et dans cette toile de fond, il faut dire une chose, il faut dire on a gagné. Il faut dire, effectivement, on a sauvé 200 ou 300 millions de vies. Le vaccin, on estime qu'il a sauvé 20 millions de personnes. On verra les spécialistes après, les chiffres valent ce qu'ils valent. Et on a perdu plusieurs millions de vies. Mais si vous voulez, par rapport à la pandémie précédente, on avait perdu entre 50 et 100 millions de vies. Vous voyez comme c'est à la marge. Les études donnent des chiffres du simple au double. Mais en tout cas, il y avait deux fois moins de terriens et il y a eu beaucoup plus de morts. Donc là, on aurait pu avoir entre 200 et 300 millions de morts. Ça aurait été cohérent vu la vitesse de mobilité de la société, les déplacements, les avions, etc. On ne les a pas eu. Donc c'est une immense victoire. C'est-à-dire la science, les mutations culturelles, le fait de communiquer en permanence les uns avec les autres, nous a donné une puissance, nous a armés d'une façon absolument extraordinaire. Et ça, il faut le chanter, parce que sinon, pourquoi on s'est enfermé chez nous? Pourquoi on a restreint nos désirs, nos projets, nos créations? Pour gagner la guerre sur la vie. Et on l'a gagné. Ça, ça me semble le premier élément. Mais à mon avis, on ne le dit pas assez. La deuxième chose, c'est que du coup, ça entraîne effectivement un épuisement quelque part. Et puis, on a tous réfléchi. On était enfermés chez nous. Alors, il y a évidemment en France 1 million de couples qui a explosé. On le voit bien même dans l'actualité. C'est clair que dans ces 1 million de couples, il y en a beaucoup, je dirais, ils n'étaient pas programmés pour exploser. C'était des couples qui marchaient bien. Et puis, enfermés d'un coup, ne plus voir de copains, ne plus sortir, être là tous les soirs dans le même lit, ne plus avoir de travail, ben, au fond, ça a explosé. Si vous voulez, on n'a pas forcément cassé que du fragile, si je peux me permettre. C'est pareil pour les gens qui démissionnent dans les emplois. Alors, c'est surtout vrai aux États-Unis. Il y a eu 48 millions de démissions sur le marché du travail. En France, c'est moins vrai. Les chiffres sont plus faibles. Mais en même temps, on a créé des tas de librairies. On a ouvert des tas d'épiceries. On a ouvert des tas de petits ateliers de transformation du bois. C'est-à-dire qu'il y a plein de nouveaux métiers qui se positionnent. Et puis, il y a évidemment les gens qui se déplacent dans l'espace, 2 ou 3 millions de personnes qui se déplacent. Les chiffres ne sont pas clairs parce que il y a, sur les 4 millions de résidences secondaires, combien il y en a qui vont inverser la logique de leur maison? J'en sais rien. Il faudra attendre pour le savoir. Donc, les chiffres ne sont pas clairs. Mais l'année dernière, on a vendu en France 800 000 maisons. Et si vous voulez, il y avait une étude dans le Parisien Libéré de ce matin qui montrait bien que vu les écarts de revenus entre les Parisiens et les provinciaux, ben un Parisien qui quitte Paris, c'est le roi de la fête dès qu'il arrive à Orléans, à Bourges, à Laval, etc. Et même plus loin, sans compter qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à l'étranger, parce que c'est beaucoup moins cher de vivre à Barcelone, etc., et d'aller à Paris une fois par semaine, si je prends le modèle de Paris, mais on pourrait prendre d'autres modèles de grandes villes. Donc voilà, ça c'est la toile de fond. Et cette vague, elle commence. C'est-à-dire, je pense, si vous voulez, qu'après les grands drames, vous voyez, il y a plein d'entreprises qui sont fragiles. Il y a plein de couples qui ne savent pas s'ils vont rester ensemble. Il y a plein de gens qui disent, et si on déménageait pour avoir une maison avec un jardin, peut-être à Reims, par exemple, il y a un développement vers l'Est, alors que traditionnellement, depuis 50 ans, les mouvements de population étaient vers les grandes régions touristiques. Et là, on voit un mouvement vers l'Est. Donc, vous êtes dans ces zones-là, même si vous êtes un peu loin. Et tout ça, dans un pays profondément déprimé, vous savez qu'on est la seule jeunesse du monde qui pense que le demain sera plus négatif qu'hier. À 60%. Alors que vous prenez, je ne sais pas, évidemment, vous me direz les Indiens, mais les Indiens, ils sont 83% à penser que demain, ça ira mieux. Vous me direz qu'heureusement qu'ils pensent que ça ira mieux, vu comment ça va chez eux. Donc, on a tout ça qui bouge. Bon, on va accélérer parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais si vous voulez, tout ça, ça change des choses énormes. Ça change la place du numérique. Le premier véhicule entre les hommes aujourd'hui, c'est le numérique. Avant, c'était le pétrole. Avant, quand on voulait voir quelqu'un, on dépensait du pétrole. Train, avion, voiture, mobylette, moto, etc. Vélo aussi, vélo, maintenant il est électrique, un peu. Et maintenant, le premier lien, c'est ce que je suis en train de faire, quoi. C'est-à-dire, on téléphone, on passe par le numérique, etc. Donc, le premier lien entre les hommes, c'est le numérique. Ce qui fait que les jeunes, qui eux ne sont que dans la culture numérique, se retrouvent complètement dans cette société numérique. Ça, c'est important. Les vieux sont plus largués, mais pour les jeunes, ils ne vont pas au cinéma, ils ne vont pas au théâtre. Quand ils veulent de la culture, ils ouvrent leur téléphone, leur ordinateur portable. Et donc, là aussi, ça bouleverse l'ensemble des choses, des systèmes d'éducation, d'enseignement, etc. Donc là, c'est un premier. Le deuxième élément essentiel, en premier, c'est moins la prise de pouvoir du numérique. On va vers un monde numérique et écologique. On était dans des sociétés industrielles, c'est un bouleversement gigantesque. La deuxième chose, c'est que le politique a repris la main sur l'économie, qu'elle avait perdue depuis Reagan et Thatcher. On l'avait gardée après-guerre. Les Trente Glorieuses, c'est une pensée du politique qui domine l'économie, qui s'était perdue pour ruiner l'URSS. Il s'était ruiné tout seul, mais disons, pour accélérer la ruine de l'URSS, ça a très bien marché d'ailleurs. Bon, donc tant mieux. Donc, voyez tout ça. Donc, ce nouveau pouvoir du politique, c'est un élément essentiel. Et puis, au fond, une chose qu'on va retrouver dans votre ville du quart d'heure, c'est que l'art de vivre a gagné sur l'art de produire. Moi, je pense qu'on était à la fin d'un processus où, si vous voulez, les valeurs de la société étaient portées par les valeurs du travail. Depuis la révolution industrielle, c'était comme ça, la hiérarchie. En gros, on cherchait d'abord un boulot, puis après, on cherchait à vivre autour. Bon. Et puis, on voyait bien monter. Vous savez qu'on vit en moyenne 700 000 heures, et la durée légale du travail en France, c'est 68 000 heures pour avoir droit à la retraite. Donc, légalement, on travaille 10% de son existence. Hein. Et c'est ça qu'il faut avoir dans la tête, et on fait à peu près 30 000 heures d'études si on arrive à Bac plus 4. Mais c'est une société où le travail est évidemment important, créatif, il amène de l'argent, du lien social, etc. Mais en temps, il est tout petit. Et là, ce qui se passe avec la pandémie, c'est qu'au fond, on a vécu des grandes vacances, sur le modèle des grandes vacances. Et au fond, je pense qu'on assiste au basculement, c'est-à-dire que les codes sociaux sont ceux issus du loisir qui sont en train de réorganiser le monde du travail. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et le télétravail va favoriser cette mutation où je dis d'abord où j'ai envie d'habiter, où j'ai envie d'élever mes enfants. Et puis après, d'ailleurs, vous voyez les jeunes, quand ils vont dans les entreprises, ils commencent à dire, c'est quand les temps libres, c'est quand les vacances. Et après, on fait quoi? Et après, je gagne combien? C'est une hiérarchie des questionnements qui a évolué. Alors, bien sûr, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais je crois qu'il faut le retenir parce que c'est essentiel et le télétravail est accéléré. L'autre chose, évidemment, qu'on a vu, c'est que l'homme n'est plus maître et possesseur de la nature. Je veux dire que, si vous voulez, de ce point de vue-là, Descartes a perdu. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est bien rendu compte qu'on était arrivé à un moment où la prédation de l'humanité sur la nature entraînait des phénomènes comme la pandémie. Ça n'a pas un lien direct en termes scientifiques, mais ça a un lien sur la place de l'homme sur la planète, qui, avec les incendies, etc. Donc, si vous voulez, cette conscience du fait que bataille pour le zéro carbone et la modification de notre culture, de nos modes de vie est devant nous, avec le fait qu'on a remis la science au milieu pendant la pandémie. Donc, on a remis les discours scientifiques, technologiques sur le nucléaire, sur la voiture électrique, sur effectivement l'ensemble des moyens de produire de l'énergie. On les remet et la société y adhère. Le nucléaire, c'est très net. Avant la pandémie, la majorité des gens étaient contre et maintenant, on est à 75% d'opinions favorables. Et la société a compris que la bataille du carbone, c'est une immense bataille technologique, scientifique. Il va y avoir des majors, du pognon, etc. Et d'ailleurs, on va renaître des discours de lutte des classes. Ça me rappelle les 217. Enfin, j'étais pas né, mais on voit qu'il faut punir les riches, il faut interdire les piscines, il faut oublier les avions. Non. Oui, les avions privés, il faut leur imposer du carbone non polluant. Ils coûtent 7 fois plus cher. Et bon, s'ils sont capables de se payer un avion, ils n'ont qu'à se payer qu'à interdire le kérosène dans ces avions. Il y a ce qu'il faut, c'est 7 fois plus cher. On ne fait pas dans les avions de ligne parce que ça augmenterait les prix. On pourra bien le faire dans les avions privés. Il suffit de prendre une règle, des décrets, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, il faut arrêter de vouloir couper la tête de tout le monde. Donc, si vous voulez, tout ça. Alors, par rapport à notre question, qu'est-ce qu'on a vu pendant la pandémie? On a vu un territoire social qu'on ne connaissait pas, 3 groupes sociaux à l'œuvre. On a vu les ouvriers, les paysans, on va dire, pour faire caricature. En gros, c'est des gens qui habitent à côté de leur lieu de travail parce que les usines sont dans la périphérie des villes ou dans certains sillons industriels. Les paysans sont généralement pas très loin de leur ferme. Et au fond, la plupart des paysans n'habitent pas très loin. Des paysans et des ouvriers n'habitent pas très loin de leur lieu de production. Et culturellement, ils sont souvent intégrés dans le maillage communal parce qu'ils y sont liés, parce qu'il y a des traditions syndicales, etc. Donc, au fond, ça, c'est une population. Il y a une deuxième population qu'on a vue, c'est les gens du care et du service. Ce sont des gens qui habitent loin parce qu'ils ont des salaires bas la plupart du temps, pas les médecins, mais les autres. Donc, ils font des grands trajets pour aller travailler. Là, on ne peut pas rapprocher le travail de l'habitat parce que ce n'est pas possible de déplacer le travail. Mais par contre, on peut déplacer l'habitat. Donc, on peut décider que le HLM, dorénavant, sera attribué en priorité aux gens qui travaillent à côté. Que le premier critère d'attribution, c'est le lieu de travail, pas le niveau de revenu. On peut modifier les hiérarchies dans la machine pour effectivement dire à tout le monde « tu as le droit à la proximité ». Ce droit à la proximité, les ouvriers et les paysans l'ont déjà, les gens du care et du service, les gens des caissières, les chauffeurs, etc. Les gilets jaunes, en gros. Les gilets jaunes plus les gens des banlieues. On peut dire, on va vous donner priorité dans le logement social pour vous aller travailler à pied. Ils ne le feront pas tous. Il y en a plein qui sont propriétaires, ils ont des conjoints, ils ne veulent pas y aller. Mais que ce soit un principe affirmé comme un droit, pour leur donner un droit égal à ceux qui sont à côté. Le troisième groupe, c'est le télétravail. Le télétravail, c'est 30 à on peut monter à 39% d'après les études de gens qui pourraient être en télétravail au moins 2 jours par semaine, sans doute 3 jours. La SNCF a été extrêmement rapide. Depuis septembre dernier, elle a fait des abonnements télétravail. À Paris, moi, je travaille à la Défense. Enfin, je suis consulté sur l'aménagement de la Défense. On a 30% des locaux qui sont disponibles. Donc, vous voyez, les bureaux urbains sont beaucoup moins utilisés. Le télétravail se développe, etc. Donc, ça veut dire que là, on a 30% des Français qui peuvent se déplacer dans l'espace parce qu'en gros, il faut qu'ils aillent dans les grandes métropoles, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, que ce soit bien évidemment Paris, Bruxelles ou autre. Ils peuvent y aller peut-être 2 fois par semaine. Il y en a certains qui y vont moins. Donc, il y a d'un côté, on est en train d'inventer des logements en ville, de conciergerie, où vous laissez vos affaires et vous avez droit 2 jours par semaine à un logement, mais vous avez vos affaires, votre linge, etc. Et quand vous partez, hop, on met les vêtements tout de côté, on lave tout, et vous revenez, tout est propre et rangé, mais on vous a mis au mur la photo de votre chien et votre livre sur la table de nuit. C'est une forme de conciergerie d'habitat. Et donc, vous avez toujours les mêmes voisins. Et du coup, vous savez, vous avez des copains dans l'immeuble, etc. Le soir, vous allez au théâtre, au cinéma, etc. Et vous avez une vie urbaine en dehors de votre famille, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Et puis, de l'autre côté, vous avez effectivement un habitat dans des villes moyennes ou des petites villes, et on arrive à notre sujet, parfois à la campagne, où la grande question, c'est la nature, voir la nature, la sentir, si possible, avec un jardin. Je vous rappelle que 70% des Français habitent dans des maisons individuelles, ont au moins 60% des jardins. Nous sommes un pays jardinier. Il faut arrêter de croire qu'on est un pays de tours. Il y a des tours, je les connais, mais la majorité des gens n'y habitent pas. Il faut faire très attention. Et surtout, dans les villes, il ne faut pas oublier que les 4 millions de résidents secondaires sont généralement des urbains des beaux quartiers. Donc, du coup, ça fait que dans la ville, vous avez des bi-résidents, vous avez autour des gens avec des maisons et jardins, y compris dans les petites villes, et puis vous avez effectivement des quartiers où il n'y a pas de résidence secondaire, encore que les immigrés ont aussi des résidences secondaires en Afrique, mais c'est un autre modèle. Donc, si vous voulez, on est sur ces modèles-là. Et donc, ça nous définit effectivement une autre façon d'habiter les territoires. Donc voilà, c'est tout ça, si vous voulez, qu'il faut garder. Donc le télétravail, excusez-moi, je me suis un peu perdu, donc 3 groupes, les ouvriers et les paysans, les gens du care et du service, là, il faut leur donner priorité dans l'HLM par un principe d'égalité républicain. Si tout le monde veut être proche de son travail, il faut se demander dans chaque cas comment on peut faire. On a déjà voté la loi pour que les fonctionnaires aient droit à 2 jours de télétravail. Quel avantage on donne aux autres? C'est évidemment une question d'égalité républicaine. Et le télétravail, c'est à l'état de conséquence. Parce que si vous voulez, dans l'entreprise, ça pose des problèmes de management, ça augmente la productivité, ça diminue les heures supplémentaires, parce qu'un type en télétravail ne demande jamais d'heures supplémentaires. Donc, du coup, pour le patron, c'est bénéfique, il y a hausse des productivités et effectivement diminution des heures supplémentaires. Mais après, ça pose des problèmes, et ça a un effet écologique positif, puisque le but du télétravail, c'est de n'aller à son bureau que 2 ou 3 jours par semaine. Donc, ça, évidemment, on se déplace moins, donc ça a des conséquences, et du coup, on développe la vie locale. La vie locale, qui est une vie, qui, en gros, je vais dire, c'est la carte des collèges. C'est ça pour moi, pour ça qu'on va à la ville du quart d'heure. Mais moi, ce qui compte, c'est socialement, c'est de dire, bon, il y a les enfants qui vont au même collège, il y a les parents qui vont au même marché, à la même église, à la même mosquée, à la même salle de sport. Ça nous fait un groupe social. Ce n'est pas forcément la commune. Ça dépend où. Dans le périurbain, ce n'est pas la commune. D'ailleurs, si vous regardez les gilets jaunes, la plupart du temps, ils ne définissent pas leur appartenance à une commune. D'ailleurs, ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Il y a 16 millions de maisons individuelles qui ont été construites depuis la guerre pour 12 millions d'appartements. Il faut quand même avoir les chiffres en tête. Les gilets jaunes, c'était des gens qui vous disent « je suis à 1h02, 1h de Paris, 1h de Lyon ». Donc, ce sont des citoyens de l'extérieur. Donc, ils ne votent pas, parce que s'ils voulaient voter quelque part, ça serait dans la grande ville. Vous croyez vraiment qu'on gérerait Paris, comment on la gère, si le million de salariés qui rentrent tous les matins avaient le droit de vote à Paris? Vous rigolez, je veux dire, on ne leur ferait pas les politiques de transport qu'on met actuellement, qui sont faites pour les gens qui sont dans la ville. Ce qui nous renvoie à la question du quart d'heure. C'est quoi la ville de proximité quand la majorité des usagers de la ville viennent de l'extérieur? C'est quand même ça qui se passe. Paris, vous avez 1 million de salariés qui rentrent tous les jours et 2 ou 3 millions d'utilisateurs de la ville, des touristes, des gens de province, des businessmen, des artistes qui viennent dans la ville. Pour 2 millions d'habitants et 700 000 actifs localisés. Qui a le pouvoir sur cette ville? À qui il doit être donné? C'est vraiment à ceux qui dorment là? C'est parce que je dors là que je vote? Et les autres? Bon, donc vous voyez la question que ça peut poser. On a ces 3 groupes sociaux qui ont des problèmes territoriaux différents et qui vont évidemment nous rapprocher. Et alors, de tout ça, qu'est-ce qui sort? Les gens nous disent, partout, ils sont contents de la proximité, du proche qu'ils ont eu pendant la pandémie. Les études des labs, qui font régulièrement des études sur le sentiment de bonheur, alors on peut en discuter, on était à 74% avant la pandémie, on est monté à 80%. C'est-à-dire, au fond, paradoxalement, les gens se sont sentis protégés, ils se sont repliés sur la famille et sur les amis proches, au fond, sur les gens qu'ils aiment bien, ils ont coupé des relations d'habitude, de boulot, le vieux cousin, l'ancien copain de travail, tout ça, on ne les a plus vus. Au fond, ça en est bien porté. Et donc, si vous voulez, et puis géographiquement, on a été obligé de plus être dans le proche, puisqu'on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, si vous voulez, on a réaménagé sa maison. On a massivement acheté des matelas. On a fait 400 000 piscines, 300 000 piscines. On a fait des tas d'investissements pour rendre sa maison confortable ou pour changer de maison s'il y a une nouvelle pandémie. Comment on fait s'il y a une nouvelle pandémie? On a vu tous les défauts des deux mois enfermés, mais ça peut revenir. Donc, si ça revient, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça aussi que les gens se déplacent à toute vitesse pour être prêts à un retour de la pandémie. Probablement qu'il reviendra autre chose, parce que le problème des catastrophes, c'est qu'elles se répètent rarement à l'identique. Mais enfin bon, donc, on est là-dedans. Et regarde le rôle du bois, par exemple. Tout le monde veut des parquets. Les marchands de parquets, les poseurs de parquets, sont les gens, parce que le bois, ça fait chaud, ça fait une ambiance, les gens veulent des cheminées, ils veulent du bois, ils veulent un poêle à bois. Alors, c'est aussi pour des raisons d'économie de chauffage, évidemment, de coût. Mais donc, tout ça modifie la société. Et donc, au fond, on est en train de construire une société du local. Et cette société du local, c'est du local et la livraison. C'est là où la ville du quart d'heure m'a toujours fait un peu sursauter, parce que le problème de la société locale qu'on est en train de reconstruire, c'est que ce n'est pas une société de natifs, du tout. C'est que là où j'habite, je veux que la fonction éducation, la fonction alimentaire, la fonction sportive, la fonction sociale et culturelle, au fond, se croisent dans un périmètre, on va dire, piéton ou vélo. Bon. Et donc, on est là dans ce territoire de proximité. Mais 21 millions des Français sont sur Amazon. Mais ce territoire-là, il y a de la livraison. L'amour du local va avec le voyage. L'étudiant formé en première année dans sa ville va avec le fait d'aller passer une ou deux années à l'extérieur de la France. C'est-à-dire qu'il faut associer un nouveau local, un local, on va dire, d'usage, avec effectivement toutes ces mobilités. Parce que si on regarde la promotion sociale en France, les études de l'INSEE de l'année dernière, il y a 10 déciles de revenus, les plus bas et les plus hauts. Si on prend les plus bas déciles, les 10% de Français qui gagnent le moins et qu'on cherche ce que deviennent leurs enfants, eh bien, il y en a à peu près 1% qui finissent dans les déciles les plus hauts. Et les autres, il y en a qui restent en bas, puis il y en a qui se répartissent toute la machine. Et les 20% qui vont dans les déciles les plus hauts, comment ils sont montés? Parents immigrés, une volonté de réussite extraordinaire. Parents qui a changé de région, qui a déménagé, qui donc a bousculé ses réseaux sociaux et sorti de son environnement. Habitants d'Île-de-France, qui a des opportunités beaucoup plus fortes que les autres de grappiller des boulots et des idées. Et dernier critère, parents dont un d'eux est allé à l'université. Après, il a chuté, j'allais dire économiquement, peut-être que c'est un choix, c'est pas forcément une chute, mais économiquement. Mais il sait que les études, c'est essentiel. Donc, il a poussé le gamin. Donc, il y a 4 raisons. Mais n'oubliez pas, effectivement, ces 4 raisons. Et donc, la promotion sociale, elle existe toujours. Elle est forcément la même qu'avant, mais elle n'est pas liée forcément à l'école. Elle est liée à l'immigration, au déménagement, à l'Île-de-France et à un parent qui a déjà été à l'université. C'est-à-dire qu'il faut regarder les processus dans les 2 dimensions. Et donc l'école a évidemment un rôle central de lien républicain et de lien d'éducation. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais ne rêvons pas. Ce n'est pas forcément la qualité de l'école qui fait l'avenir social des enfants. Donc ça, c'est une question. Il faut les pousser à déménager. Il faut les pousser à aller faire des études plus loin. C'est-à-dire ce que fait Parcoursup. Ça fait beaucoup râler. Mais si le gamin de Lyon, il est envoyé en études à Rennes, c'est génial. Ça l'arrache. Ça l'ouvre. Et donc, évidemment, c'est galère. Mais en même temps, on leur donne des chances nouvelles d'être un monde de mobilité et d'y trouver leur place. Donc voilà, moi, je regarde, si vous voulez, les processus comme ça. Je pense que le rapport, du coup, par exemple, le problème en ce moment, c'est la difficulté à désirer l'aventure de vivre. Quand je donne le chiffre sur les jeunes qui n'ont pas fait une aventure sentimentale depuis un an, depuis le début de la pandémie, 43%. C'est un retrait de la vie, si vous voulez. C'est pas en soi, moi, qui j'ai leur vie privée, c'est pas, m'en regarde pas. C'est à un moment, on s'éteint, on s'arrête, on attend. Bon, et c'est ça qui, en ce moment, est très, très compliqué. Et en même temps, à l'inverse, on a vu avec l'Ukraine qu'on avait tous dans la tête que l'attaque russe, bah, ils allaient se cacher derrière leur tapis, bah, pas du tout. C'est-à-dire que cette société, elle a une capacité de réaction et de combat qui est extraordinaire. Et à mon avis, qui vaut pour toutes nos sociétés combat climatique, parce qu'on a appris qu'on pouvait se battre ensemble. On a appris qu'à 5 milliards, on pouvait avoir des comportements parallèles, faire travailler, je crois qu'il y a 76 laboratoires de recherche qui ont travaillé. Petite parenthèse, le seul pays du Conseil de sécurité qui n'a pas trouvé de vaccin, c'est la France. Le seul. Et pourquoi ? Ben, notamment parce qu'on ne fait pas confiance aux startups. Parce qu'en fait, les recherches ont été une alliance entre des startups, rappelez-vous les deux Turcs en Allemagne, mais c'est les grosses machines comme Sanofi qui après font les séries, la distribution, etc. Mais l'invention, elle est dans les startups, parce que les grosses machines ne sont plus assez créatives. Ce qui renvoie aussi à la question du politique, quelles sont les machines créatives dans le monde d'aujourd'hui ? Et donc, si vous voulez, et on voit bien que le politique est lourd. Et donc, on est sur tout ça. Alors, si vous voulez, par rapport à nos sujets, moi, au début, il faut être honnête, quand on a commencé à parler de la ville du quart d'heure, je craignais ça. Vous savez, je suis Marseillais, j'ai été élu à Marseille. Pour moi, une ville, c'est un brassage, c'est un mélange. Je sais bien que les gens ont envie d'habiter à Marseille. Il y a les Arméniens qui sont à Beaumont, il y a les Algériens, ils sont dans tel quartier, les Gitans sont dans le 16e, etc. Les bourgeois sont dans le centre et ils glissent vers la mer et tout. Mais une ville, c'est ce brassage. Et donc, c'est très bien d'avoir des choses dans la proximité, mais en même temps, si on casse le brassage, c'est terrible ce qu'on fait. En fait, on fait de la xénophobie. C'est tout le débat qu'on a, y compris avec la bicyclette. Parce que je veux dire que moi, à Marseille, je n'ai jamais vu des jeunes beurs, des quartiers nord, des centres centre-ville en vélo. Pourtant, ça descend. Hein. Mais après, il faudrait qu'ils remontent. Mais si vous voulez, on pourrait à la limite faire des tramways que pour remonter les vélos. On pourrait leur dire, vous descendez en vélo et vous avez des remontées en tramway. Donc, il faut faire attention à ne pas éclater le cours social. Moi, c'est ma grande inquiétude. Alors après, en même temps, j'ai dit, les gens veulent du local, c'est ce qu'ils organisent. Donc la question pour moi, si vous voulez, j'entends bien le discours de ville de quart d'heure, mais si c'était une ville ouverte, c'est-à-dire si on part en voyage, s'il y a de la livraison, si les jeunes, on les envoie étudier ailleurs, etc., etc., c'est-à-dire si on mélange à ce quotidien de proximité, en même temps, cette société d'hypermobilité. Le couple est performant. Mais les grandes innovations de la monde de demain, la révolution du bas carbone, elle ne va pas être locale. Localement, on va avoir des comportements différents. On va chauffer au bois, on va modifier les comportements, on va modifier nos modes de déplacement, on va faire plus de vélo, etc. Mais même le vélo, c'est surtout les cadres qui en font, et en font très peu. Et les ouvriers, très peu, parce que les ouvriers se rappellent que quand ils étaient petits, les parents n'avaient pas de voiture et le vélo, ils y allaient tous obligés tous les jours. Donc le vélo n'a pas culturellement la même ambition. Mais il faut développer le vélo, c'est absolument évident. Mais il faut faire attention. Je pense qu'il faut défendre le brassage et défendre ce local. Et c'est le couple des deux. Pour ça que je suis pour la livraison. Je ne suis pas contre Amazon, mais je dis simplement aux concurrents, concurrencez. Je dis aux libraires, livrez. Aux pharmaciens, livrez. Pourquoi ils ne livrent pas ? Pourquoi est-ce que Amazon est en train de racheter des pharmacies et va prendre le monopole des médicaments ? Mais pourquoi il n'y a pas un coursier ? Le pizzaiolo, il livre. Et pourquoi les médicaments ? Je suis malade, il faut que je ressorte pour la suite de mon ordonnance. Alors qu'au début, effectivement, qui j'y aille, que je connaisse le pharmacien, qui sache qui suit, qui les vérifie, tout ça, bien sûr, mais quand c'est de renouvellement automatique, tout ça. Donc, vous voyez, on a besoin de penser mobilité et local en même temps. Pour moi, c'est ça le couple roi. À ce moment-là, ça devient extrêmement intéressant et ça va rassurer les proches qui veulent être sur le proche. Vous savez, si les gens sont trop sur le proche, écoutons les Italiens, écoutons ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Donc, le proche, c'est bien s'il est ouvert, s'il se ferme, ça nous mène à des positions politiques difficiles. Merci.
On a déjà une question ou réaction.
Bonjour, Patricia Andriot, élue du territoire, présidente des rencontres philo de langue, mais je travaille aussi à la NCT sur les ruralités. Merci bien pour vos propos, vraiment appréciables et auxquels moi j'adhère sans concession. On est dans un département qui a maintenant, mon intervention est d'emblée assez politique, qui a maintenant deux députés du Rassemblement national. Et ma question, c'est un peu comment, j'adhère complètement, mais en fait, moi, je trouve qu'en tant qu'élu local, on est un peu sur la défensive. En fait, j'entends de vos propos que vous nous proposez une position très offensive et très... il faut prôner l'ouverture et la mobilité culturelle et géographique. Et encore une fois, moi, j'y adhère complètement. Mais en tant qu'élu dans notre quotidien, on ne sait pas très bien comment faire parce qu'on est sur la défensive face au repli que vous avez très bien décrit et qui s'est traduit chez nous dans les urnes et qui, aujourd'hui, nous tétanise un peu pour la suite. Donc, voilà, si, enfin, sur le comment, moi, je sais bien qu'il n'y a pas de baguette magique, mais je trouve que c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement. Merci.
J'entends bien ce que vous dites, et si vous voulez, quand on voit l'évolution, notamment du monde paysan et du monde rural, il faut le dire, vers le Front National, on voit bien qu'on a un vrai problème. Bon. Pas que là. Hein. Et en gros, si vous voulez, on va dire, le Front National, il est né dans les banlieues de gauche, communistes, en hauteur. C'était l'habitat en hauteur au début, hein. Pas l'habitat horizontal, l'habitat en hauteur. Et de fil en aiguille, ça devient un vote à 20 km d'une gare, suivant la carte postale. Hein. Et c'est loin d'être faux. C'est ces gens qui se sentent loin, qui se sentent en dehors. Bon, ce que j'ai dit pour les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes ne sont pas tous Front National, mais en tout cas, ils sont quasiment tous non inscrits sur les listes électorales. Donc, c'est parce qu'entre l'abstention et l'extrême droite, bon, il y a des jeux compliqués. Donc, si vous voulez, vous avez raison, je suis d'accord avec l'analyse. Alors, après, il y a plusieurs choses. D'une part, c'est qu'on n'a pas eu depuis très longtemps une grande politique agricole qui fasse rêver, qui dise oh, voilà, à quoi, qu'est-ce que les paysans vont être utiles à la France ? Est-ce qu'ils vont reprendre en main les forêts ? Est-ce qu'ils vont passer du, est-ce qu'ils vont faire le soin du sol autrement ? Est-ce qu'on va leur donner ? Vous savez qu'on a plus de 440 000 fermes. On en avait 3 millions. On a encore perdu 100 000 fermes ces dernières années. C'est un monde en restriction. Donc, quand c'est un monde en restriction, ben, en général, on pique les terres des cousines, des sœurs, etc., des frères, et à la fin, je veux dire, on est dans un jus un peu entre soi. Bon, non, c'est difficile de renouveler. Sauf dans certains métiers. Par exemple, prenez la vigne, vous avez 45% des vignerons qui sont des entrants vers 40 ans. C'est-à-dire que là, c'est souvent des héritiers, mais qui ont été faire un autre métier pour ne pas travailler avec leurs parents tout le temps. Et puis, au moment de la succession, ils arrêtent. Et du coup, ils ont été avant dans le commerce, etc., dans ce qu'ils veulent, la recherche ou la politique. Et donc, vous avez là des entrants. Donc, vous avez un renouvellement dans le vignoble. Et regardez, par exemple, comment le rosé est devenu le premier vin français exporté, grâce à la qualité de ces entrants qui ont complètement transformé le marché. Donc, on ne peut pas dire l'agriculture. Mais dans des régions comme les vôtres, on a un vrai problème de restriction, j'allais dire, quasi culturelle, refermée, j'allais dire, si je suis caricatural, autour de la chapelle et de l'église. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même un peu vrai. Il n'y a pas assez d'entrants. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on regarde les jeunes filles. Travaux de, si on fait de Salomé Berliou, de ces territoires-là. Souvent, elles vont faire des études, elles vont vers la ville. Mais après, elles reviennent. Parce qu'en fait, le proche familial l'aurait, même si ça les déclasse socialement, l'aurait préférable à l'aventure de la ville, si on va le dire comme ça. Et quand vous regardez les jeunes dans les milieux scolaires, effectivement, un jeune qui est en Île-de-France, il se demande comment il va aller faire un stage en Allemagne. Alors qu'un jeune qui est dans un village sur le plateau autour de chez vous, ben, il se demande comment est-ce qu'il va aller à la sous-préfecture. Donc on voit très bien que les imaginaires de déplacement ne sont pas du tout les mêmes. Bon. Et donc le problème qu'on a, c'est comment on se convainc que le jeune du village, il faut qu'il aille aussi faire son stage. Alors vous avez les pays limitrophes, il y a peut-être des liens plus forts, mais ça dépend. Et comment on se mobilise là-dessus ? C'est-à-dire comment on convainc les familles, les enseignants, etc., que le fait d'aller loin permet de revenir avec un autre bagage. Et ça, si vous voulez, je vais prendre un exemple tout simple. Il y a des communes qui, quand un gamin va au collège, il pique son mail. Et puis toute sa vie, tous les mois, il va recevoir une information sur ce qui se passe dans sa commune. Il a vécu dans le monde, il est partout. À 40 ans, il y en a qui seront partis au bout du monde, il y en a qui seront médecins à d'autres endroits. Vous savez, vers 40 ans, souvent on change de vie, c'est le moment, la fin du premier couple, etc. Bon, en moyenne, aujourd'hui, il y a 63% des enfants qui naissent hors mariage et 30% des couples qui sont recomposés. Donc, en général, il y a une rupture. Bon. Si vous avez une information sur, mais là, dans le village où j'ai été petit ou là où j'ai été au collège, on cherche un médecin, on cherche un charcutier ou un architecte, et on va peut-être revenir. Donc, il ne faut pas considérer les populations comme des stocks, comme on l'a toujours fait. Il faut les considérer comme des flux. Et si vous avez une pensée du flux, le numérique vous offre une opportunité. C'est de suivre tous les jeunes. Et quand ils vieillissent, l'ordinateur automatiquement, il joue sur l'âge. Quand ils arrivent vers 55 ans, vous commencez à leur dire, vous savez, chez nous, pour se retirer, il y a vraiment des maisons pas chères, ou il y a un bon hôpital, ou il y a une vie culturelle intéressante. Et du coup, on récupère ceux qui sont partis pour finir leur vie. Parce que 50% des Français vivent dans leur territoire de naissance. 1 sur 2. Certainement plus chez vous. Mais il n'y en a que 10% qui meurent dans leur commune de naissance. Donc, si vous voulez, le mouvement, il faut le voir dans tout ça. On est passé à un monde de flux, où le flux favorise la créativité des individus. Il faut en convaincre les pédagogues, les enseignants. Mais alors, pour ça, il faut trouver des exemples. Mais aussi, il faut les suivre. Parce que si on fait partir les gens et qu'on ne les suit pas pour qu'ils reviennent, on les a perdus. Donc, c'est tout ce jeu-là, si vous voulez. D'ailleurs, si vous prenez dans l'autre sens la politique du gouvernement actuel qui réfléchit à répartir dans le territoire les derniers, les immigrés qui arrivent, les immigrants, on va dire, plutôt, c'est la même logique. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que le flux, même s'il y aura des conflits, etc., et tous les politiques qu'on a menées expérimentales marchent extrêmement bien. Parce que d'un coup, il y a de la main-d'œuvre pour des boulots, il n'y avait personne sur place, etc. Donc, on est, que ça puisse être d'ailleurs des médecins, ou des plâtriers, mais au bout de la chaîne des compétences. Et donc là, il faut, j'allais dire, il faut déraciner le local. Il faut avoir une vision du local comme lieu de qualité de vie mais il ne faut pas qu'il soit raciné. Il y a des gens qui sont là, nés là, tant mieux, c'est très bien, mais je veux dire, il ne faut pas que ça soit le modèle de la racine qui domine, ça doit être le modèle de la mobilité.
Merci. Patricia Andriot, je ne sais pas si vous voulez réagir, ça va, ça... Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, je vois une demande de prise de parole, deux. D'accord, ben, on va prendre ces deux demandes-là et je crois qu'ensuite on devra... Peut-être on prend les deux questions-réactions d'un coup, Chloé. Celle-ci et puis celle au premier rang. Et ensuite, Jean-Viard, on vous redonne la parole.
Oui, bonjour. D'accord. Claire Collia, je suis maire d'une commune rurale et présidente du Conseil économique, social et culturel du Parc national de Forêt. Justement, je me pose la question, est-ce que ce parc national qui est créé depuis bientôt 3 ans sur notre territoire lui donne une aura nouvelle? Et vous avez évoqué la place de la nature dans nos vies, donc comment ce nouvel outil peut nous aider à faire face justement aux enjeux de demain. Et on est en train de réfléchir à l'échelle du PETR aussi sur la mise en réseau et l'émergence de tiers-lieux sur notre territoire et comment voilà, cette dimension de la nature et des tiers-lieux qui sont aussi à mon sens des lieux de brassage peuvent être des outils sur lesquels s'appuyer pour construire ce territoire de demain.
Merci. Alors, on a une deuxième question donc au premier rang ou réaction.
Bonjour, Étienne Perrault, premier adjoint à la ville de Langres. Vous avez parlé du tout livraison. Tout livraison, c'est-à-dire que les libraires doivent livrer, les pharmaciens doivent livrer. Est-ce que du coup, les habitants ne vont pas se recroqueviller sur eux-mêmes dans la mesure où ils seront livrés sur tout, alors que on est dans un monde de repli, comme vous l'avez dit, alors qu'il faudrait peut-être plus extérioriser justement les gens à ressortir.
Merci. Jean-Viard,
Je vais prendre l'envers, je vais prendre la dernière question. Je veux dire, c'est un vrai sujet, hein, donc je ne vais pas le sous-estimer, c'est un vrai sujet. Mais en même temps, vous savez, les supermarchés, quand on allait faire les courses avec des caddies, s'il y a bien un lieu où il n'y a pas de lien social, c'est ça. D'abord parce qu'il y a quasiment que des dames et des retraités. On ne se parle jamais dans le supermarché. Donc ce n'est pas un lieu, c'est pas la place du marché. C'est pas du tout le marché. Donc au fond, on est en train de remplacer les grands supermarchés par de la livraison. Bon. Vous savez, c'est comme dans le livre, moi je suis éditeur, on a fait disparaître les clubs de livres. Mais en réalité, on lit plutôt plus. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ces... Voilà. Donc, moi, je pense que les très grands supermarchés vont disparaître. Ils vont devenir des halls de logistique, puisque les bâtiments sont là. On va les transformer en halls de logistique. Et, si vous voulez, et on va aller vers un système de livraison. Mais ce système de livraison, après, il faut l'organiser localement. Bon, parce qu'il faut imposer des véhicules électriques, mais aussi parce que, vous voyez, Monaco, par exemple, a imposé qu'il y a une seule camionnette par rue et par jour. Et du coup, on sait qu'à 6 heures, il y a les livraisons, comme la poste, quoi. Et du coup, au début de la rue, il y a un lieu de stockage. Chaque mec amène ses machins. Et puis d'un coup, on fait la livraison dans la rue, etc. Ça peut se dealer avec la poste, ça peut se dealer avec des services publics en lien avec le privé, etc. Pour l'instant, on n'a pas de politique de logistique en France, alors que c'est 10% de l'activité économique. Donc, si vous voulez, on est complètement à côté de la plaque. Il y a plein de pays qui ont des ministères de la logistique. Nous, on n'a pas encore compris. Et je vous rappelle que tous les leaders des Gilets jaunes, c'était des chauffeurs. Parce que, au fond, là où on avait avant la CGT Transport, qui naît la lutte sociale, j'allais dire, la SNCF et la RATP, maintenant, on a les leaders des Gilets jaunes qui sont quand même plutôt populistes que CGT. Donc, c'est un souci, il faut l'organiser, mais sur le fond, ce que ça remplace, ce n'est pas la fin du lien social, au contraire, il y a une demande de renforcement. C'est pour ça qu'il faut favoriser les petites épiceries, les marchés locaux, les producteurs qu'on connaît parce qu'il a sa fille en McDonald's, tu as vu, il fait des produits sous sa serre, etc. Il faut favoriser tous ces échanges de proximité. Les Américains, ils appellent ça l'économie forestière. C'est-à-dire, ils disent, il faut se dire une économie, il y a des grands arbres, des petits arbres, des fougères, des trucs morts, des trucs vivants, de la pourriture, de l'humidité. Et donc, il faut qu'on densifie tout ça. Il faut que je connaisse tous les gens qui font ces services, etc. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour aller vite, sur vos questions sur la nature, les tiers-lieux et tout. Je suis d'accord. La demande des gens, c'est un rapport à la nature. Et dans ce rapport à la nature, il y a une dimension écosystémique, écologique, il y a une dimension de plaisir, de voir du vert, des arbres, etc. Ce qui impose aussi aux villes de mettre des arbres partout. C'est-à-dire que la demande des gens, c'est d'être face à la nature vivante. Donc s'ils sont en ville, il faut leur mettre des arbres. Il faut que ça soit une forêt. La ville de demain sera une forêt. Je vous rappelle qu'un arbre, c'est 4 climatiseurs économisés. Donc c'est l'arbre produit du frais. Donc on a besoin d'arbres partout, il faut les planter maintenant, et il faut mettre les espèces. En moyenne, le climat va se déplacer de 300 km. Donc il faut aller planter les arbres. Vous faites 300 km vers le nord et vous regardez ce qui pousse. Et vous le ramenez chez vous. Moi, je fais de la formation de pompiers en ce moment. Ben, les pompiers de Marseille, je les envoie en Algérie. Et les pompiers de Lille, je les envoie à Marseille. Parce que les pompiers du nord, ils n'ont pas habitué au feu de forêt. Ben, ça va brûler, y compris chez vous. Donc il faut que les équipes soient équipées, etc. Bon, on est là-dessus. Donc je suis d'accord sur le rapport à la nature. Je pense, si vous voulez, que les parcs, c'est des très, très bons outils d'aménagement parce que ça fait travailler les gens ensemble et parce que ça attire le regard. Donc ça, c'est positif. Après, de l'autre côté, les tiers-lieux, moi je suis passionné par les tiers-lieux, j'en ai même contribué en créant en Bretagne, dans une petite ville comme vous, à Pont-l'Abbé. On était quelques-uns un jour au café, il y avait un hôtel à vendre sur la place. On s'est dit, bon, et si on faisait un truc pour l'acheter ? Bon, nous, on peut mettre un peu de sous, on a tous mis 5 000 euros. Maintenant, on est 149. Les derniers, on leur a baissé parce qu'il y en a qui ne peuvent pas mettre 5 000 euros. On est 149, on a racheté l'hôtel, on a fait des travaux. Ça marche vachement bien. Il y a 10 chambres et 2 studios pour faire des petits séminaires. Il y a de quoi travailler une vingtaine de personnes qui viennent avec coordinateur. Il y a 10 bureaux, il y a 2 grandes salles de réunion et un forum dans le jardin où on se réunit. On se réunit, on fait des conférences, des fêtes, etc. À partir de l'argent privé, on a eu les tiers-lieux sont financés. Il y a 150 000 euros de l'État qui aide au développement de fonctionnement quand ils sont dans la label. Et je crois énormément tiers-lieux, mais pas forcément au public. Il faut appeler les gens à créer du lien. Un tiers-lieu privé, c'est génial, quoi. Nous, on est 149 à Pont-l'Abbé. Vous avez, évidemment, vous avez le libraire, le notaire, vous avez un tiers de touristes étrangers qui sont vachement contents de mettre 5 000 euros parce que ça les dédouane d'avoir une résidence secondaire. Il faut dire les choses comme elles sont. Ben, ça récupère du pognon. Et puis, mine de rien, ils viennent aux réunions. Donc, voilà, tout ça, c'est positif. On ne se parlait jamais. On se parle. En Bretagne, je suis touriste en Bretagne. Donc, voilà. Donc, ça, les tiers-lieux, c'est très positif. Il faut les favoriser, mais ce n'est pas forcément public. Et je crois que ça, il faut le dire aussi. Il y en a qui sont associatifs. Il y en a qui sont plus avec de la culture, etc. Mais l'idée, c'est que le télétravail amène des gens qui partout se déplacent à se déplacer avec l'ordinateur. Il y a beaucoup d'hôtels aussi qui achètent des places dans les tiers-lieux, notamment à Paris, par exemple, de façon à ce que dans le service que vous avez dans l'hôtel, on vous dit aussi, vous pouvez aller travailler au tiers-lieu, qui est à côté. Donc, vous pouvez faire des réunions, vous pouvez manger, etc. C'est quasiment une annexe de l'hôtel. Donc, il y a aussi cette offre, je dirais, de séjour. Les Airbnb pourraient le faire aussi. Donc, il y a toute cette question-là de l'articulation. Mais après, pour finir, si vous voulez, je crois que pour développer un territoire, il faut un projet. Et que si vous voulez, il n'y a pas de territoire condamné. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Mais vous prenez la vallée d'Aspe, vous prenez la Vendée, ils n'étaient pas particulièrement dotés. La Vendée, simplement, ils se sont dit, oh ben, attendez, on ne va pas s'agrandir nos exploitations agricoles, c'est-à-dire se bouffer les uns les autres, parce que quand même c'est ça, on ne va pas faire ça. On va sur chaque exploitation mettre une petite activité économique en plus pour être un paysan industriel, on va dire. C'est ça le modèle vendéen. C'est cette protection de la culture paysanne par le non-agrandissement des territoires, mais par contre, on développe une activité industrielle ou service dans la ferme. Bon, c'était ce lien. C'était très malin, c'était leur truc. Bon, après, c'est une région très cohérente culturellement, catholique, assez conservatrice, si on prend M. De Villiers, je suis très poli. Et donc, évidemment, on voit bien qu'il y a aussi une cohérence culturelle. Bon. Donc, la question, elle est la première chose à faire dans un territoire, c'est de faire un diagnostic territorial réel. On est à quelle distance de quelle grande ville ? On est à quelle distance de quel système de transport ? D'où viennent vraiment nos habitants ? Où sont partis nos enfants ? C'est-à-dire, tout ça, il faut bien se mettre d'accord. C'est toujours surprenant quand on va regarder les chiffres, si vous voulez, d'un territoire. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est un stock. Moi, j'ai été élu local, hein, comme vous. J'étais à conseiller municipal de Marseille, vice-président de la communauté urbaine. On ne se rend pas compte que ça tourne tout le temps, en fait. On a l'impression que c'est toujours les mêmes gens, parce que ce qu'on voit, c'est toujours les mêmes. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Alors, chez vous, c'est une région qui n'est pas au cœur de la grande transformation. Mais le télétravail vous offre des opportunités. Le développement de l'économie forestière est un atout énorme. On a 40% du sol en forêt. Actuellement, vous savez qu'on coupe les arbres, on les envoie en Chine pour qu'ils viennent en forme de planche. Comme modèle économique absurde, on ne fait pas très bien, on ne fait pas beaucoup mieux. Donc, si vous voulez, on est là. Ben, il y a un énorme enjeu dans l'économie forestière. Il y a un énorme enjeu dans la transformation agricole, parce que c'est quand même un des grands capteurs de carbone. L'agriculture capte le carbone suivant ce qu'on en fait, etc. Donc, tout ça, ce sont des puits à carbone. Donc, des régions comme les vôtres ont une vocation de puits à carbone et de ressources comme puits à carbone qu'elles n'avaient pas avant. Donc, si vous voulez, c'est tous ces diagnostics-là qui ne peuvent être faits que localement autour de gens qui ont envie d'avoir un projet partagé. et je ne parle pas politique, hein, là. Je dis que ça peut être des gens qui ne sont pas de la même couleur politique. Ce n'est pas la question essentielle. Peut-être qu'il faut exclure les farfelus, mais je veux dire, c'est comment les gens ont envie de vivre là. Et comment ils ont envie de se dire, mais après tout, et comment on fait pour que, si vous voulez, les déchets. Moi, je vois chez moi, par exemple, comment on réutilise les déchets de la vigne. Comment on fait une activité économique de recyclage sur place, etc. C'est-à-dire comment, c'est ça que j'appelle l'économie forestière. C'est-à-dire qu'on pense tous les cycles de réutilisation des vieilles bagnoles, des frigos, etc., du tri sélectif, comment on crée une économie circulaire de proximité, comment on construit ce modèle d'une société bas carbone avec une économie circulaire dominante. Et ça, ça peut être fait sur des territoires relativement petits, mais c'est une aventure passionnante, mais il faut avoir envie de la mener. Mais je pense que vous avez envie, c'est pour ça que vous faites ces réunions tous les ans. Voilà, bonne journée, au revoir.
Merci, merci beaucoup Jean-Pierre.
Vous venez d'écouter le replay de notre rencontre sur la ville du quart d'heure, un concept moteur pour les petites villes. Vous pouvez également retrouver la synthèse de cette journée dans le numéro 36 de notre revue Terre d'Écho, disponible sur notre site internet citoyenterritoire.fr.